dédier une chanson à ceux qui vous sont chers, un espace vous est réservé. Samedi, dimanche, 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Kapi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicaces@radiookapi.net et demandez une chanson et nous vous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Bien, nous abordons à présent notre thème du jour. Nous parlons aujourd'hui de l'infarctus du myocarde. Certaines personnes sont victimes de cette maladie appelée couramment crise cardiaque. D'après les spécialistes, cette maladie constitue une urgence médicale car dans 20 à 25% des cas, les personnes malades décèdent lorsque la prise en charge médicale n'est pas immédiate. Comment soigne-t-on l'infarctus du myocarde et quels sont les moyens de prévention? Docteur Yves Lubenga, cardiologue, est notre invité. Encore une fois, bonjour.
Bonjour, Jolie.
Alors, infarctus du myocarde, pouvez-vous nous présenter cette maladie?
Alors, l'infarctus du myocarde consiste en une pathologie vasculaire qui a pour cause la conjonction de plusieurs facteurs de risque des maladies cardiaques et qui a pour conséquence une diminution de la vascularisation d'un secteur du muscle cardiaque avec comme corollaire une nécrose, donc une mort de cette partie non vascularisée du cœur.
Maintenant, des termes beaucoup plus simples, docteur.
Bon, il s'agit d'une pathologie du muscle cardiaque oui. qui, à un certain moment, se trouve dépourvue du flux sanguin nourricier et donc avec comme conséquence sa mort, et sa mort entraîne par conséquent aussi une dysfonction, une altération de la fonction du muscle
cardiaque.
Donc on
peut dire qu'une partie du cœur ne reçoit plus le sang, n'est plus irriguée comme d'habitude, et parce qu'il ne reçoit plus le sang, et cette partie meurt en quelque sorte, elle ne fonctionne plus.
Tout à fait, Jody, tu as bien compris.
Alors généralement, c'est quelle partie du cœur? D'abord, le cœur a combien de parties?
Bon, effectivement, le cœur comporte des cavités, mais il comporte aussi un muscle. Ce muscle, c'est celui qui permet au cœur d'exercer sa fonction de pompe, c'est-à-dire celle qui consiste à recueillir le sang qui lui vient des gros vaisseaux du territoire veineux et à le distiller à l'ensemble de l'organisme. Cette fonction de pompe, qui a pour but d'entraîner une bonne vascularisation de l'organisme entier, a aussi pour but de nourrir le cœur lui-même. Parce que finalement, le cœur, en tant qu'organe, comporte lui aussi des vaisseaux sanguins nourriciers qui lui permettent d'avoir une bonne intégrité fonctionnelle grâce aux apports énergétiques et en oxygène. Donc, la pathologie dite infarctus du myocarde intéresse justement la vascularisation nourricière du cœur lui-même, avec comme conséquence une détérioration de sa fonction.
Et quelles sont les causes à la base de cette maladie, cette pathologie?
Alors, j'ai dit d'entrée de jeu qu'il s'agissait d'une conjonction des facteurs qui, tous mis ensemble, aboutissaient à cela. Alors,
lesquels? Quels sont ces facteurs?
On cite des facteurs qui sont non modifiables, notamment l'âge. À partir d'un certain âge, on est plus enclin à développer la maladie. Le sexe masculin étant le sexe le plus prédisposé à développer la maladie jusqu'à un certain âge. Après, il sera rejoint par le sexe féminin.
Mais généralement, c'est à partir de quel âge?
Alors, on dit au-delà de la cinquantaine. Théoriquement, c'est au-delà de la cinquantaine et au-delà de 55 ans pour les femmes. Alors, à côté de ces facteurs de risque qui sont non modifiables parce que on évolue avec, on ne peut pas changer, il existe des facteurs qui sont modifiables. Ceux-là sont ceux sur lesquels agiront les médecins pour prendre en charge cette pathologie dans le mode préventif. Il s'agit notamment du tabagisme. Le fait de fumer a pour conséquence l'évolution vers une destruction de la vascularisation cardiaque. Le fait de consommer beaucoup d'alcool, le fait de souffrir de certaines pathologies aussi, notamment l'hypertension artérielle, le diabète sucré, le fait d'être obèse, mais aussi le fait d'avoir des problèmes avec son cholestérol. Donc voilà, de manière assez synthétique, l'ensemble des facteurs sur lesquels doivent agir les médecins pour prévenir la survenue de cette maladie, parce que elle éclot lorsque le sujet arrive à à mettre ensemble tous ces facteurs de risque.
Voilà, vous avez parlé d'abord du tabagisme. Alors, expliquez-nous comment le tabagisme agit directement sur le cœur.
Bon, alors là, nous sommes dans une explication plutôt très scientifique que je vais essayer de
simplifier.
De simplifier, tout à fait.
Mmh.
Alors, lorsque l'on consomme du tabac, il existe dans le constituant du tabac certains facteurs qui ont une action aussi bien au niveau respiratoire, okay, parce qu'on sait que le tabagisme a surtout des conséquences respiratoires, mais aussi au niveau vasculaire. Ces facteurs ont pour cible la couche interne des vaisseaux sanguins, et à ce niveau, elles entraînent grosso modo deux éléments. Le premier élément, c'est que la paroi vasculaire va voir son intégrité histologique s'altérer. Donc le patient a tendance à avoir des vaisseaux qui sont plus rétrécis et qui ont tendance plutôt à être bouchés qu'à être correctement perméables.
Donc, à cause de la fumée.
À cause du constituant du tabac, tout à fait. Et donc on comprend bien que quand un vaisseau qui doit être perméable devient oblitéré du fait du tabagisme, la conséquence c'est que en aval de ce vaisseau, il y aura un territoire cardiaque qui ne sera pas correctement vascularisé, et ce territoire dépourvu des nutriments pour son bon fonctionnement va se voir mourir.
Voilà, vous avez parlé de l'alcool, le diabète sucré, l'obésité, le cholestérol, lorsqu'on a beaucoup de mauvais cholestérol, c'est ça?
Tout à fait. Lorsqu'on a beaucoup de mauvais cholestérol, eh ben, ce cholestérol pathologique se dépose dans la paroi vasculaire, et donc rétrécit la lumière vasculaire en entraînant les mêmes conséquences que le tabac. Et donc tous ces facteurs de risque ont souvent en pour terminus cet effet-là, une obstruction de la lumière vasculaire et un rétrécissement de la paroi, entraînant donc un hypodébit sanguin dans la partie distale.
Oui. Et quels sont les signes qui peuvent renseigner que cette personne a des problèmes, souffre d'un infarctus du myocarde?
Alors, lorsqu'un sujet réunit beaucoup de facteurs de risque cardiovasculaire, déjà trois ou plus, et qu'il se plaint d'une douleur dans la poitrine, ça c'est le signe le plus parlant de la pathologie.
Mmh.
Il s'agit d'une douleur qui siège généralement au niveau de la région du cœur, donc dans l'hémithorax gauche, au niveau du sein, ou alors au niveau de la partie médiane de la poitrine. Cette douleur a des caractéristiques assez précises et connues, qui sont le fait d'être constrictif, donc le sujet a l'impression d'être pris en étau. La douleur, elle migre, donc elle irradie, elle ne siège pas seulement à la région que je viens de décrire,
mmh.
Elle irradie vers le bras gauche ou vers la mâchoire inférieure. C'est souvent une douleur qui survient au repos dans le cadre d'un infarctus du myocarde, et une douleur qui est très résistante aux antidouleurs que l'on prend d'ordinaire. Voilà. Et donc quand le patient a ces symptômes qui est présent dans plus de 90% de cas, la première chose qu'il doit faire, c'est appeler pour être conduit à l'hôpital. Parce que, comme tu l'as dit au début, la prise en charge doit se faire en urgence, car plus tôt est pris en charge le patient, moins il a de risque de décéder.
Est-ce que la douleur apparaît tout de suite ou elle commence petit à petit et puis elle évolue et ainsi de suite?
Alors, il existe des formes, classiquement, elles surviennent d'emblée. Classiquement, elles surviennent d'emblée, mais chez certaines personnes, il y a ce qu'on appelle le syndrome de menace. Donc, ils présentent ce genre de douleur depuis 48 heures avant la douleur classique, une douleur qui vient et qui s'estompe, qui vient et qui disparaît, qui apparaît initialement à l'effort, et de plus en plus, elle commence à être présente même au repos, voire pérenne. À ce moment-là, le patient devrait, en principe, voir un médecin. Mais il existe malheureusement des formes silencieuses, qui sont les formes les plus fatales, et qui s'observent surtout chez les patients diabétiques. Parce que, comme on sait, les patients diabétiques sont une particularité, en ce sens que la maladie diabétique altère le fonctionnement neurologique. Or, on sait que la douleur est ressentie dans l'organisme grâce au système nerveux.
Mmh.
Et comme le patient diabétique ne
ressent plus les
douleurs, il fait un infarctus du myocarde.
Et la maladie, il peut l'emporter sans douleur.
Sans signe d'appel douloureux.
Oui. Voilà. Et quels sont les autres signes, à part la douleur au niveau de la poitrine?
Alors, ce signe, qui est le signe le plus patent, peut s'associer à d'autres signes. Il y a des patients qui, en plus de ces signes, voit apparaître des signes plutôt indirects, notamment des nausées, des vomissements, mais surtout aussi un essoufflement et des palpitations cardiaques. Donc, lorsqu'il apparaît chez le patient, cette douleur associée à ces signes sympathiques qui sont plutôt des signes indirects, et que en plus le patient a certains facteurs de risque cardiovasculaire, notamment ceux que j'ai nommés, convient qu'il soit pris en charge en urgence dans une institution hospitalière.
Les palpitations aussi sont un signe?
Oui, elles peuvent être un signe, non pas prises de manière isolée, mais prises dans ce contexte-là. Oui, elles peuvent être un signe.
Mais il y a parfois des gens qui sont essoufflés, après avoir gravi au bout de quelques moments, la personne se sent complètement essoufflée. Est-ce que c'est également un signe?
Non, parce qu'un essoufflement qui survient à l'effort non associé à une douleur est plutôt un signe d'une dysfonction cardiaque, de ce qu'on appelle une insuffisance cardiaque. Alors, mais il existe ce qu'on appelle dans le jargon des diagnostics différentiels. Donc, il faut savoir faire la part de choses entre la part cardiaque et la part pulmonaire, parce qu'on sait que les poumons sont les organes qui gèrent justement l'oxygénation de notre organisme. Et lorsqu'ils sont dysfonctionnels, eux aussi, eh bien, le patient est essoufflé. Donc là, on essaie de faire la part des choses. Mais dans l'infarctus du myocarde classique, cette dyspnée, puisque c'est comme ça qu'on la nomme dans notre jargon, est souvent associée au symptôme majeur qui est la douleur.
Infarctus du myocarde, cause et remède. Vous avez des questions et préoccupations, n'attendez pas les dernières minutes. Composez le 081-890-63-94 et écrivez-nous également à service@radiocapi.net.
Dédier une chanson à ceux qui vous sont chers, un espace vous est réservé. Samedi, dimanche, 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Capi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicaces@radiookapi.net et demandez une chanson et nous vous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Infarctus du myocarde, quels sont les signes et remèdes voilà, face à cette maladie? Un auditeur en ligne depuis Lubumbashi, Freddy, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Freddy, bonjour à notre invité.
On vous écoute Freddy.
Oui, j'aimerais savoir, si quelqu'un il souffre de cette maladie cardiaque, quels sont les aliments qu'il peut manger? Pas, il y a d'autres aliments? Vous mangez comme ça, les autres qui souffrent l'estomac, vous mangez comme ça, ça te complique. Quels sont les aliments qu'on peut manger? Et ma deuxième question, quels conseils qu'on peut les conseiller? Parce que souvent, on dit quoi? Si tu souffres ces maladies-là, tu ne peux pas commencer à raisonner beaucoup, à penser beaucoup. Bon, quels conseils que vous pouvez donner à tous ceux qui souffrent? Merci beaucoup.
Bien, docteur Yves.
Alors, j'aimerais déjà faire la part de choses entre l'infarctus du myocarde et les maladies cardiaques en général dont a parlé Freddy, parce que l'infarctus du myocarde n'est que une pathologie parmi les nombreuses pathologies cardiaques. Alors, qu'est-ce qu'on demande aux patients d'éviter de manger? Eh ben, pour un patient qui a des facteurs de risque de développer un infarctus du myocarde, ce qu'on lui proscrit sur le plan alimentaire, c'est notamment un régime alimentaire qui est riche en graisses animales. Les graisses animales sont celles qui sont riches en cholestérol et notamment sa mauvaise fraction, et donc vont favoriser chez cet individu la formation d'un phénomène qui s'appelle l'athérosclérose, qui est le primum movens de l'infarctus du myocarde. À côté de ça, on demande au patient d'avoir une alimentation saine. Il ne faut pas qu'un patient qui est nanti de facteurs de risque cardiovasculaire n'ait un régime alimentaire qui le conduisent vers une obésité. J'ai dit tout à l'heure que l'obésité faisait partie des facteurs des risques cardiovasculaires qui conduisaient vers l'infarctus du myocarde. Par contre, si le patient fait une insuffisance cardiaque, parce que c'est souvent ce qui est courant, on proscrit chez ces patients la consommation de sel. Cette consommation de sel est proscrite aussi chez un patient qui fait de l'hypertension artérielle. S'il est hypertendu, l'hypertension est un facteur de risque de l'infarctus du myocarde. À ce moment-là, on va proscrire chez ce patient aussi la consommation abusive de sel. Je ne dis pas la consommation absolue de sel,
mais la consommation abusive
de sel. Oui. Ce qui est préconisé, c'est que le patient doit consommer 4 à 6 grammes de sel sur 24 heures. Quantité difficilement quantifiable dans nos milieux, mais on doit pouvoir y arriver.
On conseille souvent, quels sont les conseils que vous pouvez donner à ceux qui souffrent de maladies cardiaques? Je passe souvent, on dit éviter de trop penser, réfléchir, raisonner sur une situation quelconque.
Tout à fait. Un patient qui a développé un infarctus du myocarde, c'est un patient qui est angoissé, qui est stressé. Alors que nous savons que dans la prise en charge de cette pathologie, il ne faut pas que le patient ait un cœur qui batte trop vite. De manière assez simple, parce que le cœur est très peu pourvu en nutriments, il faut que son fonctionnement soit ralenti, parce que plus les besoins augmentent pour un cœur qui est déficitaire en apport, et ben plus la maladie s'étend. Donc un patient comme ça, on va s'abstenir de le stresser, parce que l'angoisse, le stress vont entraîner une accélération, une accélération de sa fréquence cardiaque et donc vont favoriser l'extension des lésions cardiaques et peuvent le conduire justement au décès.
Voilà. Et Adrien nous appelle de Lubumbashi, aimé depuis Iziro. Adrien, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Daniel Kachama. Bonjour aussi à monsieur Yves Lubinga. Moi, j'aimerais savoir si la pauvreté est l'effet des trop pensées et à la base des maladies cardiaques. J'aimerais aussi savoir, j'ai une cousine qui a ce genre de douleurs que vous avez identifiées, mais elle n'a pas l'âge que vous avez donné dans l'introduction. Elle n'a que 25 ans. Sur ce, j'aimerais savoir pourquoi. Et la dernière est de savoir pourquoi les gens qui souffrent de ces maladies, malgré la prise en charge, meurent toujours. Merci, Jody.
Bien, merci. Aimé, Mina, que vous êtes à Iziro, bonjour.
Allô, bonjour Jody, bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Oui, j'ai des questions Jody. La première est de savoir, lorsque cette maladie est déjà chronique chez la personne, quels sont les dangers que cela peut présenter chez la personne? Et la dernière est de savoir, l'invité vient d'énumérer quelques raisons qui causent cette maladie. Alors, il a cité le tabagisme, l'alcool, mais il y a d'autres personnes qui ne fument pas, qui ne prennent pas de l'alcool. Alors, ils souffrent aussi de cette maladie. Qu'est-ce qui peut être à la base de cette maladie?
Bien, merci. Docteur Yves.
Alors, lien infarctus du myocarde, pauvreté. Il y a plusieurs décennies, l'infarctus du myocarde faisait partie des pathologies les plus courantes en Occident, première cause de décès. Aujourd'hui, de plus en plus, elle est fréquente chez nous.
Alors, c'est lié à la pauvreté?
Non, nous ne pensons pas que ce soit lié à la pauvreté. Je pense que il existe maintenant ce qu'on appelle une transition épidémiologique dans nos milieux, avec une modernisation ou une mondialisation au sens occidental du terme. Une chose simple, vous allez voir vers midi au centre-ville ici à Kinshasa comment les fast-food sont pleins. Donc tout le monde essaye de vivre à l'occidental, tout le monde est en voiture, tout le monde est sédentaire. Et ben cela fait que en dépit du contexte pauvre des pays en voie de développement, cette maladie est en train d'émerger. Je ne pense pas que la pauvreté directement soit imputable ici. Je pense que le mode de vie qui a complètement changé en milieu des pays en voie de développement est à l'origine de l'émergence de cette maladie chez nous.
Alors, il dit que sa cousine ressent les mêmes douleurs, bien qu'elle n'a pas encore atteint l'âge indiqué ici. Est-ce que s'agit-il d'un infarctus du myocarde?
Alors ça, c'est une très bonne question, parce qu'une personne qui n'a aucun facteur de risque cardiovasculaire et qui développe des symptômes ou des signes d'appel d'un infarctus du myocarde devrait bénéficier de certains tests assez basiques qui sont des tests de dépistage. Hein, ces tests se font dans un cabinet cardiologique. Classiquement, on fait un électrocardiogramme qui est un petit examen qui consiste à analyser l'activité électrique du cœur. Celui-là, il est très parlant. Si un individu fait un infarctus du myocarde, ça apparaît clairement sur l'électrocardiogramme. Et si le patient a un électrocardiogramme qui est correct au repos, on lui demande d'en faire à l'effort. Donc, il est branché, il est mis sur un vélo ergométrique, il fournit un effort et on voit comment évolue le tracé. Si tous ces deux examens sont normaux, le patient présente une douleur qui n'a pas une origine cardiaque.
D'accord. Et elle dit, généralement, la plupart des gens qui souffrent de l'infarctus du myocarde, malgré la prise en charge, ces personnes décèdent toujours. Pourquoi ?
Alors, je m'inscris un peu en faux par rapport à ça, pour une raison assez simple, c'est que quand la maladie est prise en charge de manière précoce et de manière correcte, les patients sont sauvés. La difficulté qui existe dans nos milieux, c'est le diagnostic tardif, mais aussi la prise en charge qui n'est pas du tout efficiente. À titre illustratif, quand on fait un infarctus du myocarde ici sur Kinshasa, le traitement qui consiste à déboucher l'artère qui est complètement occluse et qui est donc à l'origine de l'infarctus, a deux volets, un volet médical et un volet plutôt invasif. Le volet médical ne se fait que dans une ou deux cliniques sur Kinshasa, alors que le volet invasif n'existe pas en RDC.
C'est quoi le volet invasif dont vous parlez?
Alors, le volet invasif, c'est que le patient est mis dans une salle qui s'appelle une salle de coronarographie, où on lui fait une injection dans une artère du poignet. On injecte un produit opacifiant qui va opacifier les artères. Et il y a une radio en même temps qui est réalisée. On voit clairement les artères du cœur et on voit celle qui est occluse. Lorsque celle-là a été mise en évidence, on introduit un dispositif qui rentre dans cette même artère, depuis le poignet jusque dans le cœur, et qui va déboucher cette artère. C'est une intervention assez simple qui s'est faite en une demi-heure. Mais le dispositif...
Et le cœur reprend son fonctionnement normal?
Ça se fait à cœur battant. Le cœur est en train de fonctionner alors qu'on est en train d'agir sur lui. Mmh. Oui. Et après, si c'est fait dans le délai requis, eh ben, il n'y a aucune séquelle, aucune cicatrice sur le cœur.
Voilà. Et il y a Aimé qui parle de... Est-ce que c'est une maladie chronique, hein, l'infarctus des myocardes?
Alors non, l'infarctus du myocarde n'est pas une maladie chronique, c'est une pathologie aiguë, c'est un drame cardiologique, elle n'est pas chronique. Par contre, lorsqu'elle n'est pas soignée et que le patient passe en phase de chronicité, la pathologie n'est plus un infarctus du myocarde, mais c'est plutôt une insuffisance cardiaque parce que le cœur a perdu une grande partie de son muscle et donc devient défaillant sur le plan de sa fonction pompe.
Papi Kalema de Kindu, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Kassama, et bonjour à notre invité.
Quelle est votre question, papy?
Bon, en dépit de tout ce que notre invité a donné comme cause provoquée par cette maladie ou pathologie, la crise cardiaque, je voulais poser des petites questions à notre invité. Est-ce que le fait de beaucoup penser sur la vie, en quelque sorte avant la pauvreté, beaucoup penser sur la vie, ou bien beaucoup penser sur un être cher qui vous a laissé dans la vie, et peut aussi provoquer cette maladie? Et comment différencier, pour la deuxième question, différencier les douleurs provoquées par la crise cardiaque et celles qui sont provoquées par l'estomac? Parce que l'estomac aussi, on dit que lorsque une personne est en train de penser beaucoup sur la vie, comment arranger sa vie, penser à la pauvreté qui frappe plusieurs personnes dans notre pays, peut quand même avoir l'estomac. Maintenant, les douleurs qui sont en train d'être développées dans le cœur et celles qui peuvent être développées dans l'estomac, comment les différencier dans le corps humain d'une personne? Voilà mes deux préoccupations, M. Jody Kassama.
D'accord. Nous allons directement à Bounia pour accueillir Bruno. Bonjour Bruno.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour aussi à l'invité.
Quelle est votre question Bruno?
J'ai une petite question. Et le docteur peut me donner aussi s'il y a la différence entre la maladie du cœur et les crises cardiovasculaires.
D'accord, différence entre maladie de cœur et crise cardiovasculaire. Docteur Yves.
Alors, je vais commencer par
répondre. Bon, voilà. Revenons d'abord à la question de Aimé, qui dit, il y a des personnes qui ne fument pas, mais comment se fait-il qu'ils arrivent quand même à attraper l'infarctus du myocarde?
Alors,
parce que vous avez parlé du tabac, comme les tabagistes sont comme l'un des facteurs favorisants.
Tout à fait. Le fait qu'un individu ait des facteurs de risque augmente la possibilité que le patient développe la maladie. Mais les facteurs de risque, jusque-là, il y en a qui sont connus, mais il en existe qui ne sont pas connus. Parce que toutes les décennies, il y a des facteurs de risque qui émergent. Mmh. Donc, on peut avoir un patient, effectivement, sans facteur de risque cardiovasculaire patent, mais qui développe un infarctus du myocarde. Et là, justement, dans les pays où la recherche existe encore, ce sont des cas sur lesquels tablent les chercheurs pour essayer de mettre en évidence certains autres facteurs de risque qui peuvent conduire à l'émergence de cette maladie. Ceci rejoint directement une autre question qui a été posée, comme quoi un individu qui pense beaucoup,
qui s'est fait beaucoup de soucis, qui a des soucis de la vie, avec des soucis après d'avoir perdu un être cher, est-ce que c'est là le dispose à développer une maladie cardiaque, infarctus du myocarde?
Tout à fait. Il y a des études en Occident qui ont montré, par exemple, que dans les 6 mois à 12 mois qui suivaient la mise en retraite de certains sujets, il y avait une proportion de plus de 15% qui faisait un infarctus du myocarde. Donc, on se dit qu'un individu qui a un stress particulier de la vie, qui vit des contraintes psychologiques importantes, est susceptible d'évoluer vers un infarctus du myocarde, ne serait-ce que parce que cet individu a augmenté la fonction cardiaque dans les besoins du cœur. Et donc, effectivement, oui, il peut évoluer vers un infarctus du myocarde.
Et comment différencier les douleurs de l'estomac et les douleurs d'une crise cardiaque?
Alors ça, c'est un grand piège. Je ne conseille pas du tout aux individus d'essayer de faire la part des choses à domicile. Parce que,
il faut aller consulter.
Il faut aller consulter. Ce d'autant qu'il existe des formes d'infarctus du myocarde dont la douleur siège au niveau de la région de l'estomac. C'est vraiment une situation qui est très trompeuse et qui s'observe d'ailleurs dans 25% des douleurs épigastriques, donc de la région de l'estomac. Donc plutôt aller, au moindre doute, aller voir un médecin, c'est lui qui va faire la part de choses.
Chadrak, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour l'invité. Bon, j'avais une question à poser à l'invité. Je voudrais savoir le mécanisme physiopathologique par lequel l'hypertension artérielle peut déboucher sur c'est l'infarctus du myocarde.
D'accord, docteur Yves.
Alors, celui qui pose la question, il est très scientifique.
Il est du domaine, sûrement.
Oui, très certainement. Donc, on va parler plutôt, on va se mettre à son niveau. Alors, voilà ce qui se passe. C'est que l'hypertension artérielle qui est caractérisée par une augmentation du débit cardiaque, entre autres, va entraîner au niveau des artères de moyen et de gros calibre dans les régions de bifurcation des lésions qui sont des lésions de cisaillement qui vont donc mettre à nu dans la paroi vasculaire la partie dite sous-endothéliale, et quand cette partie sous-endothéliale est mise à nu, eh ben vont venir s'agréger à ce niveau-là des éléments figurés du sang qu'on appelle les plaquettes, et les plaquettes elles-mêmes vont entraîner un processus inflammatoire à cette région et vont constituer un thrombus, donc un caillot. Et lorsque le caillot va se constituer à cette région, eh ben il suffit d'une poussée hypertensive, d'une élévation de la tension pour que ce caillot se détache et aille dans les régions distales où les vaisseaux sont plutôt de moindre calibre et va occlure de manière complète ce vaisseau, avec comme conséquence une nécrose au niveau du myocarde.
Voilà. Docteur, un sportif, un footballeur qui a l'habitude de se chauffer, d'être en mouvement à tout moment, le cœur est sollicité. Généralement, est-ce qu'il peut, ils sont prédisposés à développer des infarctus du myocarde?
Non, pas particulièrement. Bien au contraire. Un sportif qui exerce une activité physique régulière a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est qu'au repos, il a une fréquence cardiaque qui est basse. Donc, quand il est au repos, les besoins du muscle cardiaque sont tout à fait réduits. Le deuxième avantage, c'est que ça lui permet d'avoir une pression artérielle normale. Donc, un sportif régulier n'est pas hypertendu. Le troisième avantage, c'est qu'un sportif régulier, il ne va pas se morfondre il va pas consommer du tabac, il va pas consommer de l'alcool parce qu'il sait que c'est délétère par rapport à ses performances. Mmh. Et un autre avantage, c'est que l'exercice physique a pour vertu une promotion du bon cholestérol au détriment du mauvais. Donc en fait, en exerçant une activité physique soutenu de manière régulière, on est plutôt en train de annihiler l'effet des facteurs des risques cardiovasculaires, tout simplement parce que finalement ils ne vont plus exister chez cet individu. Par contre, en ayant arrêté le sport, eh ben ces sujets deviennent très très vite susceptibles de développer la maladie.
Bien, donc si la prise en charge est bien faite, vous dites que la personne, on peut guérir totalement de cette maladie.
Oui, si la prise en charge est précoce, comme j'ai dit, c'est une substance, un caillot qui bouche une artère. Mmh. Il suffit qu'on débouche ce caillot, et ben il n'y a pas de séquelles sur le cœur.
Mais plus on traîne, plus on prend du temps.
Plus on traîne, ouais. Plus le cœur. En fait, ce qui se passe, c'est que la partie qui ne reçoit pas de sang a un délai de survie. Ce délai de survie, selon la littérature, est de 12 heures. Donc si, au moment où cette partie est dépourvue des nutriments provenant du sang, de l'heure 0 à l'heure 12, si la prise en charge se fait à ce moment-là, il n'existe presque pas de risque qu'il fasse de séquelles. Par contre, si ça s'est fait au-delà, eh ben, on peut soigner le patient, mais il aura déjà perdu une grande partie de son muscle cardiaque. Et à ce moment-là, ce sera un patient qui, dans les semaines ou dans le mois qui suivront, sera incapable de faire du sport parce que très vite essoufflé. Ce sera un patient qui pourra mourir dans son sommeil parce qu'il fait une mort subite. Donc, ça va le prédisposer à développer beaucoup, beaucoup de conséquences dégénératives. Mmh. Ouais.
Alors, le seul moyen de la prévention, c'est qu'il faut éviter l'alcool, éviter le tabac, quoi d'autre?
Bien soigner les pathologies comme l'hypertension artérielle.
D'accord.
Bien contrôler ses valeurs glycémiques quand on est diabétique. Il faut avoir un contrôle de diabète qui est bien fait, avoir l'habitude quand on a des facteurs de risque d'aller pour des dépistages chez un cardiologue en faisant des tests ischémiques qui vont permettre de voir s'il existe un soubassement de la maladie. Et aussi, lorsqu'on a déjà fait la maladie, parce qu'il existe deux modes de prévention, une prévention primaire pour les patients qui ont des facteurs de risque et une prévention secondaire pour ceux qui ont déjà fait la maladie, et ben ceux-là devront bien prendre le médicament et les traitements qui leur sont prescrits de manière à ne pas faire une récidive. Parce que quand on en fait deux fois, ça veut dire qu'on augmente davantage la partie détruite du cœur et donc on devient très très invalide sur le plan cardiologique.
Docteur Yves Loubenga, cardiologue, merci.
Au revoir.